Le journal est présenté par Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour. 10 ans d'indépendance fragile au Kosovo, le plus jeune État européen célèbre cet anniversaire de manière contrastée. Aujourd'hui, les divisions restent tenaces entre albanophones et serbes, exemple dans la ville de Mitrovica en début de journal.
Moins de corruption, une meilleure répartition des terres. En Afrique du Sud, le premier discours du président Cyril Ramaphosa annonce une transformation économique radicale en rupture avec les années Jacob Zuma. Le nouvel homme fort de l'ANC promet de retrouver l'esprit de Nelson Mandela.
Un véritable complot russe qui se dessine pour faire gagner Donald Trump à la présidentielle de 2016, c'est le procureur spécial américain Mueller qui a inculpé hier 13 ressortissants russes aux États-Unis. On aura toutes les précisions avec Grégory Phillips.
Le conflit fait rage entre associations et gouvernements sur la circulaire Colomb qui autorise un recensement des migrants dans les centres d'hébergement d'urgence. Hier, l'audience devant le Conseil d'État a permis de mesurer les écarts d'analyse sur ce texte et plus largement sur la politique d'immigration de notre pays.
En fin de journal, nous irons à Pyeongchang, les JO d'hiver en Corée du Sud avec la médaille d'or du malaise pour ces pom-pom girl nord-coréenne dont les chorégraphies militaires glacent le sang des habitants du Sud qu'elle devait séduire. Ce sera un reportage de Frédéric Ojardias. Et puis après ce journal, le deuxième invité des matins, Caroline.
Sera Ronnie Broman, un médecin, ancien président de MSF Médecins Sans Frontières pendant 12 ans. Il est aujourd'hui le directeur de recherche à la fondation MSF. Il est professeur également et essayiste. Nous parlerons bien entendu d'humanitaire et de guerre.
Mais avant de développer tous ces titres, un détour par le Mexique où le spectre d'un nouveau séisme meurtrier a plané pendant de longues minutes hier soir après le tremblement de terre qui avait fait 400 morts au mois de septembre. La terre a de nouveau tremblé dans le sud du Mexique, magnitude de 7,2. Des immeubles et des maisons se sont effondrés dans de nombreuses localités. Mais selon les autorités, le bilan humain est limité. On a actuellement les premiers signalements de victimes, de personnes qui sont mortes dans ce séisme qui commence à arriver de la part des autorités mexicaines. C'est le plus jeune État européen qui célèbre aujourd'hui ses 10 ans. Le Kosovo, confetti albanophone des Balkans, enfant tardif de l'éclatement de la Yougoslavie, a donc proclamé son indépendance de la Serbie il y a 10 années. Cet anniversaire permet de mesurer l'ampleur des divisions qui persistent dans une population où cohabitent toujours Albanais et Serbes. Divisions visibles dans la ville de Mitrovica au nord du Kosovo où étaient stationnées les forces françaises et les ONG pendant la guerre. Lila Lefebvre y est revenue pour France Culture.
Quelques drapeaux dans l'avenue principale, des fanions jaunes et bleus, et en face de la mairie, une sculpture Kosovo 10, où les passants se prennent en photo. Bien loin du concert géant et des festivités qui durent depuis une semaine dans la capitale Pristina, il faut dire qu'ici, on ne se sent pas vraiment kosovar.
Je suis fier du Kosovo, mais je me sens albanais. Je vis au Kosovo, je viens du Kosovo, mais ici, tous les gens sont des Albanais. Ils se sentent albanais, vous comprenez ?
Sokol habite le sud albanais de la ville comme la grande majorité des habitants de Mitrovica. Et comme la grande majorité d'entre eux, ils ne traversent jamais le pont qui le sépare de la partie serbe. D'ailleurs, ce pont, entièrement reconstruit après la guerre par l'Union européenne, n'est toujours pas ouvert à la circulation. Des plots de béton en barre l'accès, des militaires de la force de l'OTAN, la KFOR, sont postés nuit et jour pour le surveiller. Une tension que ressent bien Zana. Cette Albanaise travaille dans une ONG située en partie serbe. Elle traverse le pont tous les jours.
Ce n'est pas que c'est la guerre tous les jours ici, mais il y a un conflit silencieux et froid qui est toujours présent. Je crois que c'est le lieu le plus dangereux.
Changement d'ambiance, nous sommes dans la partie nord de Mitrovica. Ici, ce sont des drapeaux serbes qui flottent. Toutes les vitrines, les plaques des rues sont en alphabet cyrillique. Pas de jaune ni de bleu, les couleurs du Kosovo à l'horizon.
On ne va pas célébrer l'indépendance ici simplement parce qu'on est au nord de Mitrovica. Pourquoi faire la fête pour cet événement alors que nous sommes serbes ?
Cette partie nord de Mitrovica échappe encore à l'État kosovar. On y paye en dinars, comme en Serbie. Elle a sa propre administration et puis les liens avec son ancien pays de tutelle sont encore très forts. Par exemple, une partie des retraites sont directement versées par l'État serbe.
Un reportage signé Lila Lefebvre, donc dans cette ville de Mitrovica. Et bonjour Ronnie Broman.
Bonjour.
Vous consacrez dans votre dernier livre « Guerres humanitaires, mensonges et intox » aux éditions textuelles un chapitre à cette guerre du Kosovo qui a donc débouché en 2008 sur l'indépendance de cet État. Est-ce que la situation qu'on vient d'entreapercevoir dans ce reportage, elle découle selon vous des conditions dans lesquelles cette intervention a été justifiée ? Est-ce que c'était une guerre juste à l'époque, comme vous le dites dans votre livre ?
Non, je ne dis pas que c'était une guerre juste.
Le terme que vous employez dans votre livre.
C'était une guerre justifiable du fait des violences, disons, d'ordre racial, ou en tout cas d'ordre ethnique. Les nuances dans ce domaine sont très difficiles à préciser. Ces violences qui étaient imposées par le régime de Belgrade, et finalement le Kosovo est né sous les coups conjoints de la dictature de Belgrade et des forces de l'OTAN. Il y a une sorte de responsabilité mêlée qui a débouché sur cette indépendance. Moi je trouve que c'est extrêmement regrettable que de ce statut d'autonomie qui était en train d'émerger, on ait versé vers l'indépendance, la fragmentation ethnique d'un continent, que ce soit l'Europe ou un autre, est toujours une mauvaise nouvelle, me semble-t-il. Cela étant, il faut reconnaître que au Kosovo, les violences se sont relativement apaisées. La région de Mitrovica est toujours restée une espèce de chaudron auquel il faut en effet prendre garde. Mais la situation, disons, est moins pénible après le conflit que avant, ce qui continue, afin de justifier a posteriori l'engagement militaire qui était là. Mais il me semble qu'il aurait été peut-être possible, l'intransigeance de Milosevic restant le facteur interrogatif, restant la question essentielle, mais il aurait peut-être été possible de tenter une médiation diplomatique plutôt qu'une action militaire.
Ronnie Broman, merci beaucoup. On vous retrouve autour de 8h15.
À peine arrivé au pouvoir, le nouveau président d'Afrique du Sud met la lutte contre la corruption au centre de son programme politique.
Oui, premier discours sur l'état de la nation sud-africaine hier au Cap pour Cyril Ramaphosa, celui qui a succédé cette semaine à Jacob Zuma, a pris soin de se démarquer de son prédécesseur, pourtant issu du même parti, l'ANC. Zuma est tombé pour des accusations de corruption. C'est donc sur ce point en particulier que Ramaphosa a mis l'accent hier, Lisa Fabian.
Une fois de plus, Cyril Ramaphosa se place dans les pas de Nelson Mandela. Un retour aux sources pour leur parti, le Congrès national africain, très abîmé par les 9 ans de mandat de Jacob Zuma.
Nous devrions honorer Mandela en mettant derrière nous cette ère de discorde, cette ère de division qui s'est, semble-t-il, abattue sur notre pays.
Le nouveau président sud-africain a lancé un message fort contre la corruption institutionnalisée qui mine le pays.
La commission d'enquête sur la corruption étatique va bientôt commencer son travail pour s'assurer que la nature et l'étendue des malversations soient connues et que ceux qui en sont responsables soient identifiés.
Cyril Ramaphosa a multiplié les appels du pied aux investisseurs avec la volonté affichée de ramener la confiance en Afrique du Sud.
Le cours des matières premières est à la hausse et il y a des indications que la confiance des investisseurs s'accroît.
Le chef de l'État sud-africain aligne les promesses de croissance et d'emploi, mais sa marge de manœuvre sera réduite vu les difficultés budgétaires de l'Afrique du Sud.
Lisa Fabian, aux États-Unis à présent, ça se précise autour de l'enquête russe. Le procureur spécial Robert Mueller inculpe 13 ressortissants et 3 officines russes accusés d'avoir tout fait en amont de la présidentielle de 2016 pour semer la discorde dans la vie politique américaine et favoriser une victoire de Donald Trump. Un véritable roman d'espionnage suivi pour nous depuis Washington par Gregory Phillips.
Pendant 2 ans, de 2014 à 2016, ces ressortissants russes se sont fait passer pour des Américains. Avec des identités volées, ils ont voyagé dans au moins 8 États du pays, dont la Floride ou le Colorado. Ils ont même organisé des réunions publiques et soutenu des candidats locaux à des élections. Dans le même temps, l'organisation baptisée Agence de recherche russe de l'Internet, basée à Saint-Pétersbourg, dépensait des millions de dollars pour diffuser sur le web des messages visant à soutenir le candidat Trump et à affaiblir Hillary Clinton. Précision importante qu'on peut lire dans ce rapport d'inculpation de 37 pages, ces agents russes ont bien contacté l'équipe de campagne de Trump, mais cette dernière ne connaissait ni la véritable identité, ni la nationalité de ces personnes. Hier soir, le président a réagi par un tweet. Il écrit « La Russie a entamé sa campagne anti-américaine dès 2014, longtemps avant ma candidature. Mon équipe de campagne n'a donc rien fait de mal, il n'y a eu aucune collusion. »
L'actualité américaine, c'est aussi le FBI qui bat sa coulpe, et ce n'est pas si courant. Le directeur de l'agence fédérale reconnaît que ses services en Floride ont eu, dès début janvier, un signalement émanant d'un proche de Nicolas Cruz, l'auteur de cette tuerie du lycée de Parkland qui a fait 17 morts mercredi. L'informateur signalait que le jeune homme était armé, instable et projetait de tuer des gens. L'information n'avait pas été traitée par le FBI. La Turquie accusée d'avoir utilisé une bombe au gaz dans son offensive anti-kurde autour d'Afrin, l'Observatoire syrien des droits de l'homme et les médias officiels syriens signalent donc que 6 personnes, au moins des civils civils ont été intoxiqués par un mystérieux gaz après un bombardement turc. Selon l'Office syrien des droits de l'homme, l'offensive lancée par Ankara il y a à peu près un mois a déjà dépassé les 78 morts civiles.
France Culture 8h10, suite du journal. En France, le Conseil d'État se prononcera la semaine prochaine sur le bien fondé ou non de la circulaire Collomb. Cette mesure qui porte le nom de notre ministre de l'Intérieur et qui permet aux équipes de l'Office de l'immigration de recenser les migrants jusque dans les centres d'hébergement d'urgence.
Et pour les associations comme Emmaüs, la FNARS ou Médecins Sans Frontières, entre autres, qui ont déposé ce recours devant le Conseil d'État, la circulaire est dangereuse. Elle viole le principe selon lequel ces centres d'hébergement doivent accueillir tous ceux qui ont besoin d'un toit sans leur demander leur statut vis-à-vis de la loi. Florence Sturm a suivi les débats houleux hier au Conseil d'État.
Les associations et les représentants de l'État se sont affrontés pendant près de 3 heures. Patrice Pinozzi dénonçant le fait que les agents de l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, puissent entrer et collecter des données personnelles dans les centres d'hébergement sans que leurs responsables puissent s'y opposer.
Aujourd'hui, l'administration bat pavillon sur un certain nombre de points, précisément suite aux critiques des associations, affirme beaucoup plus clairement aujourd'hui qu'elle ne le faisait dans le texte de la circulaire, que tout cela ne peut être pris et récupéré que sur la base du volontariat. Autre élément déterminant aussi qui est apparu à l'audience et qui n'existait absolument pas, c'est la volonté de la part de l'administration de ne pas demander auprès des différents centres des listes des personnes qui sont hébergées, contrairement à ce qui avait pu se produire au premier jour de la circulaire.
Un débat de plus en plus crispé au fil de l'audience et qui, pour Didier Lesky, le directeur général de l'OFI, recèle d'autres intentions que juridiques.
Je crois qu'il y a quelque chose qui pollue le débat sur la circulaire, d'une certaine manière. C'est le contexte général qui n'est manifestement pas apprécié par les associations, mais qui a peu de rapport avec le contenu de la circulaire lui-même. Je crois que la circulaire, elle a un contenu très précis, qui n'est pas attentatoire aux droits des gens. Et je pense que la polarisation d'un certain nombre d'associations sur cette circulaire se situe dans un contexte où, par ailleurs, elles veulent contester le projet de loi du gouvernement sur le droit d'asile. Je pense qu'il y a un mélange des deux et du coup, on fait dire à la circulaire ce qu'elle ne dit pas.
Le projet de loi sur l'immigration sera présenté mercredi prochain au Conseil des ministres.
Florence Sturm, on apprend décidément de drôles de choses en école de commerce à Lyon. La prestigieuse école de management compte parmi ses professeurs un certain Laurent Wauquiez qui se fait fort devant ses étudiants de révéler les coulisses de la politique française. Ses paroles ne doivent pas sortir des murs de l'école, mais l'émission de TMC Quotidien s'est procuré des enregistrements alors quand Laurent Wauquiez se lâche sur ses ennemis comme sur ses ennemis. Voilà ce que ça donne, Louise Baudet.
Première cible, Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics qui reste soupçonné d'abus de faiblesse à caractère sexuel. Une première plainte pour viol a été hier classée sans suite. Après donc ce grand déballage signé Laurent Wauquiez, Darmanin, c'est du Cahuzac puissance 10. Le type sait très bien ce qu'il a fait, il va tomber. Et notre conférencier ne s'arrête pas en si bon chemin. L'affaire Fillon, téléguidée par Emmanuel Macron qui a monté une cellule de démolition du candidat LR à la présidentielle, Laurent Wauquiez en est sûr et certain. Nicolas Sarkozy, enfin, un vrai paranoïaque. Il en était arrivé au point où il contrôlait les téléphones portables de ceux qui rentraient en Conseil des ministres, affirme Laurent Wauquiez. Il les mettait sur écoute pour pomper tous les mails, tous les textos. Même la chancelière allemande Angela Merkel est alignée pour son manque de charisme. Un vrai baltrap que cet exercice d'un nouveau genre devant des étudiants triés sur lettres de motivation. On leur annonçait des propos d'experts parfaitement apolitiques, mais leur prof d'un jour a visiblement confondu conférence et confidence.
Louise Baudet pour France Culture.
Et pour fermer ce journal, Camille, en nous emmenant dans le sillage des pom-pom girls nord-coréennes aux JO de Pyeongchang.
Oui, des Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud, donc on a beaucoup parlé des signes de réconciliation avec cette délégation nord-coréenne et ses 22 sportifs, mais aussi 200 danseuses qui font au moins autant parler d'elles que les athlètes là-bas, Frédéric Ojardias.
Les vidéos des pom-pom girls nord-coréennes dans les tribunes de la patinoire olympique de Gangneung font le tour du net et des médias sud-coréens. Toutes habillées de rouge, elles chantent et dansent, suivant une chorégraphie aussi calibrée que leur sourire. Un spectacle qui suscite chez les sud-coréens de nombreuses réactions de malaise, voire de rejet. Ces jeunes femmes semblent sorties d'un autre âge. Elles enchaînent leurs chansons démodées sur la réunification en ignorant complètement ce qui se passe autour d'elles. Leurs performances ont un aspect très mécanique, souligne Dosang, 25 ans, étudiant.
Ces pom-pom girls encouragent aussi les athlètes sud-coréens. Ça, c'est bien. mais je trouve que leurs performances ont l'air très artificielles. Aujourd'hui, en Corée du Sud, les supporters ne font plus ces danses de groupe à la chorégraphie absolument parfaite. Je n'aime pas ça.
Ces supportrices sont très encadrées. Elles sont surveillées à chaque instant par des agents nordistes et il est impossible d'engager une conversation avec elles, ce qui suscite aussi le malaise. Enfin, leur message appelant à la réunification ne rencontre guère d'écho parmi des jeunes sud-coréens qui sont de plus en plus indifférents, voire hostiles, à l'idée d'un tel événement. Si Pyongyang voulait se servir de son armée des beautés pour améliorer son image en Corée du Sud, l'opération est plutôt ratée.
Frédéric Ojardias en Corée du Sud pour France Culture. Enfin, quelques mots de météo. De la neige attendue sur le nord-est ce matin. Des pluies continuent du Massif central à la Franche-Comté. Les températures cet après-midi ne dépasseront pas les 7 à 14 degrés du nord au sud.